Ça,
c'est jazz. Bebop,
free jazz,
jazz rock,
big band,
hard bop,
ethno jazz,
swing,
jazz manouche,
jazz fusion,
bossa nova,
cool jazz,
jazz vocal.
Ça, c'est jazz.
Ça, c'est jazz.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Ça c'est Jazz, c'est la première de la rentrée, alors comme on dit, bonne année.
Et ouais, bonne année 2016, ouais.
De toute façon, ça pourra pas être pire que 2015 a priori, donc...
Je pense qu'on va se la prendre cool. Tout à fait, il faut partir positif là, c'est clair.
C'est ça, et comme on dit, la musique adoucit les mœurs, donc on va en écouter pendant une heure, hein, histoire de bien être dedans quoi.
Alors cette fois, on consacre cette émission de Ça c'est Jazz au saxophone.
Le saxophone, ouais, inventé par un Belge, monsieur Adolphe Sax, au 19e siècle.
Ouais, un Belge en fait qui était, je crois qu'au départ, il était fondeur, quelque chose comme ça.
Ah, ça c'est possible, oui.
Il travaillait les métaux et il s'est mis à corriger pas mal d'instruments et il a créé le saxophone qui manquait hein, dans la gamme de tous ces instruments qui sont des bois en fait.
Exactement, c'est un instrument avant mais curieusement qui appartient à la famille des bois et non pas des cuivres comme on pourrait l'imaginer, ouais.
Alors pourquoi ?
Si, je sais en fait. Pourquoi ? Parce que le son provient de la vibration d'une hanche en bois contre le bec du saxophone.
D'accord.
Et c'est ça qui compte en fait. C'est la hanche en bois qui initialement vibre et donne le son à l'instrument.
D'accord. C'est pour ça quand une embouchure, c'est un cuivre par opposition.
Ouais, tout à fait. C'est ça la différence en fait. Ouais. J'ai appris ça en travaillant pour l'émission. Comme quoi, on apprend des trucs dans Ça, c'est jazz.
Ouais, pas mal, ouais. On finira moins bête.
Ouais, c'est clair.
Donc c'est une hanche simple, hein, contrairement à d'autres instruments comme le basson, le hautbois, où c'est des hanches doubles. C'est-à-dire que deux lamelles qui frottent très proches l'une de l'autre et qui donnent des sons un peu plus nasillards en général. Alors que là, c'est une hanche simple, et, comme la clarinette, comme d'autres.
Ouais, carrément. Et puis, bon, de toute façon, on va parler de l'instrument au fur et à mesure. On va peut-être écouter de la musique aussi pour commencer, histoire d'être dedans. Et puis, on reparlera de l'histoire de l'instrument et de sa place dans l'univers du jazz. On a choisi un morceau de Coleman Hawkins pour commencer.
Ouais, Coleman Hawkins, c'est un saxophoniste ténor qui est né en 1904 et est mort en 69. Son surnom c'était Bean. Bean Haricot.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est ça, ouais. Je sais pas pourquoi.
Ah, là, j'ai pas cherché, désolé. Bon,
ouais, c'est un drôle de truc. Bean, ouais, ok. Et en fait, c'est un autre. Il a beaucoup écrit. Il est auteur quand même de gros standards, hein, des affinados. Ça, c'est lui, quoi.
Et puis, il est aussi considéré comme le premier musicien, justement, à donner son véritable rôle au saxophone dans l'univers du jazz. Le saxophone était utilisé avant dans le monde du jazz, mais en tant que... comme faisant partie des cuivres, pour le coup, bien qu'il n'en soit pas un.
En section, quoi.
Ouais, c'est ça. Et lui, il a été un des premiers à extraire l'instrument pour le jouer en soliste, en fait.
Ouais, ça, c'est quand même... c'était un gros pas, quand même.
On va écouter.
On est parti pour Coleman Hawkins. Le morceau s'appelle Picasso et il date de 1948.
Thank you.
c'est Coleman Hawkins qu'on peut entendre au saxophone, interprétant le morceau qui s'appelle Picasso et qui date de 1948.
Oui, on peut apprécier chez Coleman Hawkins comme une attaque assez douce. Hein, vous allez voir un peu au fur et à mesure qu'on va vous faire entendre des saxophonistes. Souvent, on les reconnaît un peu à l'attaque, c'est-à-dire la façon dont ils démarrent leurs notes. Et là, c'est vrai qu'il y a une certaine douceur, les notes sont assez arrondies. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé la qualité du son. Il a fait école hein, sur toute la génération
complètement,
future.
Complètement. Ouais. D'autant plus que c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment lui qui a sorti l'instru pour en faire un instrument soliste au sein du jazz. Donc oui, effectivement, je pense qu'il a fait école. Ouais,
ouais c'est clair.
Donc on va continuer à parler du saxophone dans le monde du jazz. On a déjà fait une émission avec un invité, avec Marco, qui était venu nous présenter son saxophone baryton. Et on avait consacré entièrement l'émission au baryton, mais cette fois-ci, on a décidé de le faire plus large et de présenter l'instrument en général.
Voilà, laissons-nous présenter un peu des saxophonistes différents pour voir un peu les différentes ambiances. Donc là, on était sur un sax ténor. On va passer ensuite sur Charlie Parker, qui est un saxophoniste alto.
Ouais, puis alors là, pour le coup, c'est vraiment le maître du saxophone dans le monde du jazz. Enfin, en tout cas, au départ, quoi. C'est, je pense qu'il a su montrer à tout le monde de quoi était capable l'instrument.
Ouais, c'est ça, ouais. Charlie Parker, donc il est né en 1920, donc c'est pas d'hier hein, quand même, mais donc Coleman Hawkins, lui, c'était 1904, d'accord ?
Oui, ok.
Donc Parker, il a vraiment marqué son époque, on l'appelait Bird comme l'oiseau, parce qu'il faisait il s'est fait connaître par ses envolées énormes, des espèces de cascades de notes, et surtout il a été l'un des fondateurs du style qu'on appelle le style bebop.
Ouais. Tout à fait.
Bebop, qui était des tempos assez rapides. Hein.
Ouais, c'est ça. Ben, bebop, c'est tempo rapide, une assez grande technicité de la part des musiciens, des instrumentistes. Et puis surtout, quelque chose qu'il y avait rarement avant, enfin en tout cas pas autant, l'improvisation à partir de la structure harmonique des morceaux.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Ouais, lui, il installe vraiment ça. Ouais. Il y a déjà les impros avant, mais lui, il installe vraiment ce côté avec Dizzy Gillespie. Avec tout
Max Roach à la batterie, entre autres.
Tout à fait, ouais. Et là, du coup, là, vraiment, c'est une époque où ils mettent le feu dans les. Il faut bien se mettre à l'époque. Hein. Parker, il meurt en 55, donc tout jeune. Hein.
À 34 ans.
À 34 ans.
À 34 ans, et le médecin qui est venu voir son corps le jour de sa mort pensait qu'il avait entre 50 et. L'a évalué entre 50 et 60 ans.
Ouais,
pour dire dans quel état il était.
Enfin, dans quel état il avait le foie aussi.
Ouais, c'est ça, parce qu'il ne buvait pas que du sirop. Et avec la paille, il s'en servait pour autre chose aussi.
Ouais, c'est clair. Ouais. Il a fini. Il est mort. Chez la fameuse baronne de Pannonica.
Ouais, c'est ça, devant la télévision.
Ouais, ouais. C'est dramatique.
Stupidement.
Ouais. C'est dramatique. Ouais. La fameuse baronne, on pourrait presque faire une émission sur elle un jour, parce qu'elle a hébergé moult saxophonistes, c'était une fan de jazz. Mingus lui a dédié une chanson, il a atterri chez elle régulièrement, enfin, ils sont nombreux.
Ouais, puis bienfaitrice et mécène du coup de ce jazz naissant, de ce mouvement en tout cas naissant, à savoir le bebop.
Oui, elle a plusieurs fois mis la main à la poche pour financer des enregistrements, des choses comme ça. C'était le mécène, c'est clair.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, on va peut-être écouter hein, bon, Charlie Parker. Ouais. C'est parti, Coco. Thank you. Charlie Parker, Bird, un morceau qui s'intitule Coco et qui est enregistré en live, qui date de 1949.
Ouais, Dizzy Gillespie à la trompette, hein, vous avez pu entendre un peu les différences sax-trompette, et c'était un sax alto.
Ouais, carrément, c'est-à-dire plus aigu que le premier saxophone qu'on a entendu, qui était un ténor.
Voilà, alors un petit peu pour faire une petite, un petit rappel sur les sax. Il y en a quand même plusieurs, hein, Nico, je te laisse les citer.
Oui, il y a 7 tailles de saxophones qui sont utilisées aujourd'hui. Ça part pour le plus grave du saxophone contrebasse. Ensuite, on a le saxophone basse, le saxophone baryton, le saxophone ténor, l'alto, le soprano et le sopranino pour le plus aigu.
Voilà, ouais. Alors le soprano, en fait, on le reconnaît, les saxophonistes s'appellent la carotte. Hein. C'est celui qui ressemble à la clarinette, qui est tout droit. Le baryton, il y a une boucle en haut. C'est comme ça qu'on s'en rend compte.
Oui, puis il est assez balèze, hein, en taille aussi.
Ouais, hein. Du volume. Bon, après, il y a le bass, c'est assez rare. Le contrebass, ils sont rarissimes. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 dans le monde. C'est un truc énorme qui est posé sur un pied, carrément.
Ouais, je pense que c'est plus utilisé en musique classique, probablement, dans des ensembles, dans des grands ensembles. À savoir que, oui, le saxophone est un instrument qui a d'abord été utilisé pour essentiellement des fanfares militaires. Parce que, à l'époque de son invention, au 19e siècle, Adolphe Sax a eu du mal à promouvoir son instrument tout de suite au sein de la musique classique. C'était ça qu'il visait. Le jazz n'existant pas à cette époque. Et c'est arrivé quand même, hein, aujourd'hui, c'est un instrument qui est utilisé largement aussi dans le classique.
Okay, je crois que Ravel a été le premier à composer pour saxophone, pour du vivant d'Adolphe Sax.
D'ailleurs, je pense qu'il y a du saxophone, une partie de saxophone dans le boléro.
D'accord.
Ouais, il me semble. Mais voilà, et puis après, dans le monde du jazz, c'est début 20e que l'instrument a su se faire une place et qu'il a su conquérir après tout un tas d'autres univers musicaux, quoi, parce qu'on le retrouve dans le rock, dans le funk.
En fait, il a l'intérêt, le sax, quand même, d'avoir une puissance sonore assez impressionnante, et par contre, d'avoir aussi une. On peut jouer avec beaucoup de dextérité et peut être très volubile, ce qui n'est pas évident avec les autres vents. En fait.
Ouais, et puis bon, au-delà de ça, juste le son qu'il émet, qui est quand même.
C'est clair. Qui fait pleurer les filles.
Ouais, on dit ça, ouais. Bah, un son assez chaleureux, quoi, en tout cas, ça c'est clair.
C'est clair. Ouais. Ouais.
Et c'est vrai que c'est un instrument, ça reste un instrument encore aujourd'hui très emblématique du jazz, quoi.
Ouais,
quand on parle de jazz à des profanes ou des néophytes.
Ils pensent saxophone, ouais, c'est sûr. Ouais.
Non, je déconne. Bon, on va enchaîner avec un autre saxophoniste afro-américain, Dexter Gordon, cette fois. Dexter Gordon, qui lui est un musicien influencé par le bebop, c'est-à-dire le genre de morceau qu'on vient d'entendre avec Charlie Parker. Et qui a continué dans cette lancée, dans un style qu'on appelle aujourd'hui le hard bop. C'est un peu la continuité, c'est ça, du bebop.
Et moi, j'ai envie de dire que Dexter Gordon, ça représente un peu, justement, l'image du saxophoniste beau, le mec qui a la classe et qui charme les filles avec un son super langoureux. Quand Dexter Gordon joue, les filles pleurent, quoi.
Bon, c'est parti, on va les faire pleurer. Dexter Gordon, Cheesecake. Thank you. Cheesecake par Dexter Gordon, enregistré en 1962 sur l'album Go, avec un point d'exclamation.
Ouais, alors y a
on y va, quoi.
Ouais, clairement, ouais. Il n'y a pas que des saxophonistes qui meurent tôt, hein. Dexter Gordon, il en a 23, il est mort en 90.
Ah, quand même. Oui. Hein, je veux dire qu'il y a des jazzmen qui vivent assez longtemps, quand même.
Ouais, voilà. Ouais,
ah, c'est bien ça.
Ils ne meurent pas tous tout de suite de Go, qui vous dérange.
Ouais, c'est bien. Ça fait plaisir. Bon, et ben justement, on enchaîne avec quelqu'un qui est toujours vaillant aussi, Sonny Rollins, un grand gaillard assez costaud, afro-américain également. On a choisi un morceau qui s'appelle Saint Thomas, et qui bah, justement est tiré d'un album qui s'appelle Saxophone Colossus.
Ouais, Rollins, c'est quand même un des grands messieurs du sax qui a joué avec à peu près tout le monde. Il a remplacé John Coltrane chez Miles Davis, dans le deuxième quintet. Et Miles raconte que quand Sonny Rollins démarrait, en fait, pour le trouver la nuit après les sets dans les bars, il y a un pont, j'ai perdu le nom du pont en question, dans New York, où il allait jouer régulièrement pour pas que les voisins l'emmerdent. Et alors, en gros, quand on voulait faire un set avec Rollins pour l'emmener dans un bar, on allait chercher sur son pont, où il jouait comme un timbré. C'est assez délirant. Quand on voit la carrière de Rollins derrière, c'est assez
étonnant. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, le morceau qu'on va entendre, peut-être que certaines auditrices et certains auditeurs le reconnaîtront, parce qu'il a été repris par Claude Nougaro. Alors, bon, évidemment, le Saint Thomas de Sonny Rollins s'est transformé en AT Saint de Claude Nougaro. Hein, donc, on est passé du sacré à l'érotique, mais bon, c'est pas grave, c'est comme
c'est
ça. C'est le jazz, ouais, c'est clair.
Donc, on se demande lequel est le plus sacré,
d'ailleurs. Ouais, complètement, ouais. Oui, c'est vrai, on pourrait se poser la question. Et juste encore une chose sur ce morceau, en fait, c'est au départ, c'est un calypso. Ouais. C'est un calypso, d'où le rythme chaloupé qu'on va entendre au départ à la batterie, que lui chantait sa mère à Sonny Rollins quand il était petit. Et il s'est souvenu de ce morceau et s'est dit, tiens, je vais l'enregistrer, mais au saxophone.
Oh, c'est beau.
Ah, c'est chouette. Hein. Ouais. On écoute.
C'est parti. Thank you. Sonny Rollins, Saint Thomas, vous avez tous reconnu ce thème, quand même, tout le monde connaît Saint Thomas.
Popularisé par Claude Nougaro, mais c'est vrai que, thème de jazz standard, quoi.
Ouais, puis qu'on garde bien dans l'oreille, c'est des mélodies qui restent pas mal.
Ouais, carrément, je suis fan. Et on passe maintenant à un saxophoniste américain, mais blanc cette fois-ci. Car il y en a. Il y a des blancs qui font du jazz, ouais.
Ils essayent.
Ils essayent, mais lui, il a plutôt bien réussi parce qu'il était surnommé The Sound.
Le son. C'est clair. Ouais.
Donc, quand même.
Ouais, j'en connais quelques-uns, s'ils m'entendent, ils vont être furieux parce que Stan Getz, il y en a qui l'aiment.
C'est clair. Donc voilà, on va parler de Stan Getz, qui s'est installé sur la côte ouest des États-Unis et qui a participé du coup à ce mouvement qu'on a surnommé le Jazz West Coast.
Le West Coast, ouais.
Associé au cool aussi.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est un son, de toute façon, on s'en rend vite compte, il a un son super velouté. On le reconnaît quand même entre mille, hein.
Ouais, carrément.
C'est sûr qu'il y a un côté qui passe super bien, qui est très doux.
Et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça va vraiment faire contraste avec le morceau de Sonny Rollins qu'on vient d'écouter, qui était un morceau dans une veine plutôt bebop, hard bop, quoi.
Ouais.
Et là, on passe à un morceau qui a des influences bossa nova, puisque c'est un morceau qu'il a enregistré avec le Brésilien João Gilberto. Bon, je dois pas le prononcer avec le bon accent, on est d'accord, mais je passe pas ma vie au Brésil. Bon, ça pourrait être cool, mais
ça peut être pas mal. Ouais.
Mais bon, voilà, on est ici à Saint-Afrique et c'est très bien. Et le morceau s'appelle The Girl from Ipanema. Je pense que tout le monde connaît ce morceau aussi.
Ouais, encore un gros standard qui a été joué, rejoué, mais quand même, la version originale de Stan Getz Gilberto, ouais, c'est beau quoi.
Donc il y a du chant au départ. Il y a d'abord João Gilberto qui chante, puis sa femme, Astrid Gilberto, qui chante également. Les mêmes paroles mais reprises en anglais. Et puis enfin le sax arrive et vous allez voir effectivement il a vraiment un son assez particulier.
Vraiment le sax ténor par excellence. Donc Stan Getz, Girl from Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem e que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah. porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but you watch her so sadly. Walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.
Alors, on a beau être au mois de janvier, là, moi, je suis sur la plage de Copacabana, tu vois, avec un cocktail clair à la main, et puis
carrément,
je me fais bronzer tranquille au soleil, quoi.
Ouais, certain, il y a un palmier qui me fait de l'eau.
Ouais, c'est ça, ouais. Complètement. Ouais, c'était Stan Getz, saxophoniste américain.
Ténor.
Ténor, ouais, encore ténor. Mais c'est vrai que le ténor, ça reste l'instrument, enfin le saxophone le plus utilisé quand même, même s'il y a des saxophonistes qui jouent de l'alto, du soprano ou du baryton, ça reste, pense.
Bah, c'est je crois que c'est...
Contredis-moi si je me trompe, mais...
Bah, il y a plein d'autres saxes, mais c'est vrai qu'il y a un côté, le ténor, très proche... de la voix humaine, du côté, enfin, du côté langoureux dans le sax ténor. Il est aussi, je dirais, peut-être un peu moins, il est plus large d'utilisation, j'ai l'impression.
Peut-être, ouais. Peut-être.
L'alto est un peu plus dur.
Bah écoute, on fera une émission spéciale ténor avec Marc la prochaine fois, et puis on lui demandera ce qu'il en pense.
Il jouera du ténor. Ouais, et puis on trouvera un soprano, il nous fera une émission spéciale soprano. On va bien des côtés adultistes.
On appelle aux musiciens, hein, s'il y en a qui sont motivés pour venir dans l'émission, nous parler de leur instrument et faire un petit peu de la zik au studio, il n'y a pas de souci.
Ah oui, bienvenue. Ouais.
Et tu parlais d'un instrument qui fait langoureux, on va rester un peu dans cette idée avec Barney Whelan et le morceau Besame Mucho.
Ouais, Besame Mucho, ouais, bah oui, c'est quand même un morceau. Pareil, hein, c'est un peu connu. Hein,
Oui, largement, ouais. Partie des standards.
Barney Whelan, moi, c'est un saxophoniste français, donc de père américain et de mère française.
Ouais, c'est ça, qui est né à Nice.
Qui est né à Nice, ouais, qui vit en France toujours. Et qui a participé, donc, à l'ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis à l'époque.
C'est ça, la musique du film de Louis Malle, ouais.
Voilà, il a joué pas mal de monde à l'époque où les musiciens de jazz venaient en Europe, les musiciens américains venaient en Europe, où ils amenaient pas forcément leur formation, mais ils venaient comme leader, et ils prenaient des musiciens sur place, ça se fait de moins en moins, quand même. Hein. Ils prenaient, en général, sur la scène française, Barney Whelan comme ça, que c'était assez fréquent, quoi, à l'époque. Ouais, donc il a joué beaucoup
de monde. Ouais, et puis il est passé aussi outre-Atlantique, lui avec des musiciens américains.
Dans
ouais.
le sens aussi,
carrément. Ouais.
Et là, le morceau qu'on va entendre, Besame Mucho, il est tiré d'un album qui s'appelle La Note Bleue, qui est sorti en 87.
Oui, c'est ça. Ouais, 1987. 87,
ouais. Moi, je l'ai acheté un peu après. Et en fait, il y avait une BD avec, c'était marrant, une petite BD qui raconte une histoire dans un bar de jazz où il y a une musique avec un saxophoniste qui joue. Et quand on lit la BD, on écoute le disque à côté.
En même temps,
Barney Whelan qui joue Besame Mucho. C'est quand même assez sympa, c'est pas mal. Quoi.
C'est pas mal, ouais. Allez, c'est parti. Besame Mucho. Thank you. Barney Whelan sur Besame Mucho, enregistré en 1987. Ça sonne bien, ça, hein ?
Ouais, ça sonne bien, ouais. C'est un bel album, ouais, très sympathique.
Ouais, carrément.
Très agréable à écouter.
Alors, on enchaîne avec Dave Liebman.
Ouais, Dave Liebman, le saxophoniste, le, comment dire, le fan... Le double de John Coltrane.
D'accord, ok.
Il a vraiment poussé Coltrane, il a étudié Coltrane en long, en large et en travers, et il y a du boulot, hein, au dire de copains saxophonistes, il y en a pour une vie, quoi. C'est...
Ouais, je pense, ouais, largement. Et justement, on a choisi un morceau de Dave Liebman qui reprend du Coltrane, Crescent particulièrement, parce que dans cette émission sur les saxophonistes de jazz, nous avons fait le choix de ne pas diffuser de John Coltrane.
Bah non, c'est dit qu'on vous consacrerait au moins une émission entière à John Coltrane, parce que...
Ouais, voire même deux, on verra, mais en tout cas, voilà.
On s'y penchera un peu plus précisément, parce qu'il y a quand même tout un univers à voir, une époque, enfin... Ça peut être pas mal de, de passer un peu plus de temps. Donc là, c'est un album Dave Liebman qui est un hommage à John Coltrane. Donc c'est encore un saxophoniste blanc, américain cette fois, et qui est donc là au soprano et qui joue un morceau qui s'appelle Crescent, qui est partie des grands morceaux de John Coltrane.
Ouais, des standards de Coltrane, c'est clair.
C'est un morceau assez tranquille. On peut l'envoyer pour se l'écouter. Vous allez voir, c'est beau. Dave Liebman, Crescent. Thank you.
Et non, ce n'est pas John Coltrane que l'on peut entendre, même si l'ombre de Dieu, comme dirait Bruno, plane sur ce morceau. Hein.
Ouais, c'est vrai que ouais, c'est, il a, vous avez pu entendre le son du soprano, quand même super clair, un petit peu nasillard, juste ce qu'il faut. Voilà, quoi, c'est ça un soprano.
Et donc une reprise quand même de Coltrane, hein, Crescent.
Oui, tout à fait. L'album est dédié à Coltrane, complètement.
Ouais, sympa, j'aime bien. C'est, ouais, c'est clair. Bon. Ça, c'est, il le joue différemment, ouais, et en même temps, on retrouve l'esprit.
Hein. Ouais, vraiment.
Eh bien, on va terminer l'émission, hein, ouais. Mon cher Bruno, je crois que...
Dernier morceau, on arrive au bout, on aurait pu raconter des tonnes de trucs encore, mais
ouais,
on va se calmer.
C'est clair, mais donc tant pis, bah, le mois prochain, quoi.
Voilà.
Et donc, on va terminer avec Joshua Redman, qui est un jeune saxophoniste afro-américain. Enfin, jeune, il a 46 ans, ouais, mais c'est plus la jeune génération de jazzmen,
voilà,
quoi.
Voilà, c'est un peu la nouvelle vague, quoi. Hein. Ouais.
Et qui, lui, est pas mal influencé par le... Enfin, entre autres, hein, pas que, mais aussi par le funk, et ça s'entend dans le... Dans, ouais, le morceau qu'on va passer, il vient d'un album qui s'appelle Freedom to the Groove, donc ça veut tout dire. Hein.
Ouais,
ça sonne un peu manifeste. Hein,
Quelque part, ouais, ouais. Ouais. Bon, c'est un gars qui a joué avec pas mal de monde. Déjà, il a joué avec des Coréas, avec plein de très grands musiciens. Il a une place assise, oui, c'est sûr.
Allez, c'est parti.
C'est parti pour Joshua Redman.
Hide and Seek. Ça, c'est Jazz, la première de la rentrée. Voilà, c'est la fin. Donc, on va vous dire au revoir. Merci à Phil, à la technique.
Merci à Phil, merci à Radio Saint-Aff de nous permettre de faire ces émissions. On se fait bien plaisir.
Carrément. Et le mois prochain, donc, une émission consacrée à...
À John Coltrane.
Ouais, super.
Ouais, ça y est, c'est un... Le mois prochain, Dieu est en studio.
Allez, ciao, bye bye.
Salut, à bientôt.